Aus Markus Kapitel 12.
Dans Marc chapitre 12,
Möchte ich Vers 24 lesen?
Je voudrais lire le verset 24.
Und dann aus Markus 12,
Et ensuite,
Vers 24.
toujours dans Marc 12,
Und dann von Vers 29.
le verset 29.
Jesus antwortete ihnen,
Verset 24, Marc 12. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? C'est déjà une parole qu'aucun de nous n'a le droit de prononcer. Uniquement le Seigneur a ce droit et c'est lui qui l'a aussi prononcé. Mais les hommes qui sondent les Écritures, qu'ils soient sadducéens, pharisiens, protestants ou catholiques, et si on sonde les Écritures et qu'on les lise, mais qu'on demeure dans l'erreur parce qu'on n'a pas expérimenté ni connu la puissance de Dieu, alors c'est tragique. Il s'agit donc que le sens divin de la parole nous soit révélé par révélation. Frère Rousse l'a déjà évoqué. L'eunuque éthiopien était assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe lui a demandé, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il a été honnête et il a dit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Acte 8, verset 31. À partir du verset 29 dans Jean, dans Marc 12, Marc 12 à partir du verset 29, Jésus répondit, voici le premier en ce qui concerne les commandements. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est beaucoup. L'homme tout entier, avec sa pensée, avec sa force, avec son âme, avec son esprit, avec tout ce qu'il est, doit aimer le Seigneur. Et même si cela ne passe pas vraiment ici, on peut aimer sans aimer. Mais nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Dans son amour divin, dont il nous a aimés le premier, nous devons l'aimer en retour. Alors, il prend la première place. Alors, notre vie lui appartient entièrement. Nous ne pensons plus à nous-mêmes, notre temps, notre existence lui appartient. Je vais relire le verset 29. Marc 12, verset 29. Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ne plus rien garder, mais tout remettre entièrement au Seigneur. Il poursuit le verset 30. De toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, ne pas penser en passant à côté de Dieu, mais demeurer même dans nos pensées, dans les limites de la parole de Dieu, afin de demeurer ainsi en Dieu. Car Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7. La suite du verset 30 de Marc 12, « De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Je voudrais lire dans Romains chapitre 5 une parole qui concerne notre connexion ou communion avec Dieu et notre pardon. Je voudrais lire dans Romains chapitre 5. Ici, Paul a résumé la chose de manière merveilleuse. Et il écrit ce qui suit. Romains chapitre 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, verset 18, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19, Romains 5, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dieu n'a demandé à aucun de nous si nous voulions venir dans ce monde comme pécheurs. Ça s'est produit automatiquement. Tout homme ou tout être humain né dans ce monde depuis Adam et Ève, sans avoir été consulté, peu importe où sur la terre, est venu sur cette terre séparé de Dieu, d'où l'exigence. Vous devez naître de nouveau. Autrement, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Dieu, dans sa grâce, avait créé l'homme capable de chuter. Il devait donc prendre la responsabilité de réparer la chute, de combler le trou et de réconcilier l'homme avec lui-même. Et ça s'est produit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, comme par la transgression d'un seul, nous avons tous été entraînés dans la transgression, de même, par l'obéissance de l'acte de justice d'un seul, nous avons été ramenés ou replacés devant la face de Dieu comme justifiés, purifiés, réconciliés avec Dieu et comme sa propriété. Heureux l'homme qui peut accepter cela dans la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a le récit de Jonas qui représente de la meilleure manière ce qu'est réellement le salut et comment il s'opère. Dans Jonas, directement après le livre d'Amos et Abdias, très facile à trouver dans l'Ancien Testament. Il est écrit au chapitre 2 de Jonas. Jonas chapitre 2, à partir du verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Verset 3. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Verset 5. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux se sont entrelacés autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Ce n'était pas quelque chose de facile. Vous connaissez tous cette histoire. Jonas a dit à ces personnes, au capitaine et à toutes les personnes qui étaient sur le bateau, qu'il était un serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mais cependant, il fuyait la mission que Dieu lui avait donnée. Le Seigneur lui a dit, « Lève-toi, va à Ninive. » Mais il s'est levé et il a pris le chemin de Tarsis. Et voilà qu'une grande tempête éclata. Le bateau menaçait de sombrer. Et ils ont tiré au sort pour voir qui était coupable. Et le sort est tombé sur Jonas. Et il dit encore, ici au chapitre 1, Jonas chapitre 1, verset 9. Jonas 1, verset 9. « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Oui, c'est bien possible. Mais sur le chemin de la désobéissance, le service rendu à Dieu ne vaut pas grand-chose. On peut adorer Dieu, mais s'il vous plaît, sur le chemin de la foi et de l'obéissance, sinon malgré l'adoration, cela mène quand même vers le bas. Le chemin de la désobéissance conduit malgré tout vers la perdition. Ainsi, la leçon que nous en tirons est donc celle-ci. Adorer Dieu, oui, mais dans la foi, de manière juste, sur le bon chemin, c'est-à-dire dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. Mais il faut reconnaître qu'il avait tout de même du courage. Il n'a pas résisté. Il a accepté ce que la situation exigeait, à savoir qu'on le jette par-dessus bord. Et c'est ce qui est aussi écrit au chapitre 1, au verset 12. Peut-être nous pouvons commencer par lire le verset 12, afin d'avoir le contexte. Jonas 1, verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Verset 12. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » Il avait donc la foi, il faut bien le reconnaître. Il lui manquait simplement le courage d'annoncer la parole du Seigneur à cette grande ville de 120 000 habitants, ce qui était énorme à l'époque. Il ne pensait pas grandement à lui-même face à cette immense tâche. Il se sentait petit, il préférait fuir dans la direction opposée. Et il dit au verset 12, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Nous voyons donc que, ça c'est le verset 12 qu'il a repris, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Nous voyons donc que les hommes qui deviennent coupables descendent vers le bas. Ce fut le cas pour Jonas. Nous aussi, nous sommes tous devenus coupables devant Dieu. Et le chemin que nous suivons naturellement est réellement le chemin large. Il peut être pavé de bougies, de bonnes intentions, illuminé et couvert de tout ce qui est imaginable. Mais le chemin large conduit à la perdition. Nous avons tous été désobéissants, et cela nous concerne tous. Et nous apprenons ici que c'est le chemin de chacun d'entre nous. Puis nous lisons dans la suite, au chapitre 2, du verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Seigneur, mon Dieu. Il savait que les hommes l'avaient jeté dans la mer, mais Dieu l'en avait retiré. Dieu avait même préparé un gros poisson comme un sous-marin. Il fut jeté dans la mer. Le sous-marin, le bateau sous-marin est venu et l'a pris. Oui, ce gros poisson, c'était ce gros poisson, le bateau sous-marin, qu'il a avalé. Puis, il descendit jusqu'au fond. Et d'une manière ou d'une autre, il devait voir où il se trouvait. Peut-être le poisson était transparent, Dieu le sait. Il voyait peut-être les algues marines. Les algues marines, il décrit toutes les circonstances, qu'il les ait vues réellement ou non. Mais une chose était claire pour lui. Soudain, ce sous-marin s'arrêta et le voyage était terminé. Et derrière lui, tout était fermé. C'était la fin du parcours, le terminus terminé. Perdu, disparu pour toujours. Et alors, il cria au Seigneur. Un homme doit d'abord toucher le fond et comprendre le désespoir total, savoir qu'il est séparé de Dieu jusque dans les profondeurs les plus abyssales. Puis vient le moment du cri au secours vers le Seigneur. Et croyez-le-moi, il aurait pu appeler tous les sacrificateurs du monde. Aucun ne l'aurait aidé. Au contraire, ils auraient tous péri avec lui. Il aurait invoqué Marie et tout le reste. Personne n'aurait aidé. Le secours vient de Dieu, le Seigneur. Celui qui veut réellement le salut et le secours doit s'adresser à celui qui seul peut sauver et secourir. Tout le reste ne conduit qu'à une immense déception. Ainsi, alors je cria au Seigneur. Peut-être dois-je lire le verset 8. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu du Seigneur. Oui, c'était terminé. Son âme défaillait en lui. C'était la fin. Alors je me souvins du Seigneur. Sans briser les Écritures, on peut dire, il se souvint du Seigneur et le Seigneur se souvint de lui. Le Seigneur le voyait, le Seigneur l'aimait, mais il le laissa suivre son chemin, le chemin qui menait vers le bas, afin de pouvoir ensuite le conduire sur son chemin à lui, le chemin du Seigneur, couronné de bénédictions et de miséricorde. Verset 8. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu du Seigneur et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Nous n'avons pas choisi ce texte. Je n'ai pas ajouté moi-même le verset 9. C'est comme ça que c'est écrit. Bien-aimés, nous ne jugeons ni nous ne condamnons réellement personne. Mais cela nous attriste de voir des hommes être trompés pour l'éternité par des paroles pieuses. Et je l'ai écrit dans un petit document. On prétend sauver les gens de la naissance jusqu'à la mort. Oui, si possible, même avec 7 sacrements. Puis à la fin vint l'aveu final. La personne n'est pas sauvée. Je ne l'oublierai jamais. Ça s'est produit ici à Krefeld. Lorsqu'un de mes anciens collègues du travail est décédé. Et en effet, au cimetière, on disait qu'il avait plu au Seigneur de l'appeler dans la gloire. Mais dans l'église de Bochum, Il n'était plus dans la gloire. Il était en bas. Et il fallait célébrer des messes pour lui. Alors, où est-ce qu'il est? Il est en haut ou il est en bas? Est-il là où il est, comme on a dit, au cimetière ou là où on a dit à l'église? Je ne crois pas que les hommes du 20e siècle aient besoin de fermer les yeux, de mettre des oreillettes et de croire des traditions et des doctrines humaines. Je pense que le temps où il est interdit de lire la Bible est passé. Mais Dieu en soit plein. Maintenant qu'il est permis de lire la Bible, personne ne la lit plus. Et tous suivent les traditions. Et voilà que la séduction continue. Et les hommes ne s'en aperçoivent que lorsque c'est trop tard. Au verset 10, Jonas a dit, verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Puis vient la phrase essentielle. Le salut vient du Seigneur. Oui, ton salut et mon salut viennent aussi du Seigneur qui est devenu notre sauveur par grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons ensemble remercier Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissé perdus, mais qu'il a eu compassion de nous. Et non seulement cela, mais qu'il nous a aussi sortis ou fait sortir de l'erreur ou bien de la confusion religieuse pour nous conduire dans sa parole. Tout est réellement grâce. Nous aurions suivi le même chemin que la grande masse si Dieu ne nous avait pas pris, accepté par grâce et s'il ne nous avait pas fait miséricorde. Et d'autant plus, notre cœur monte, élève vers Dieu la reconnaissance. Et nous souhaitons réellement que la proclamation du simple et pur évangile, mais puissant et qui sauve, nous souhaitons que cet évangile puisse encore être proclamé à l'humanité tout entière. Et cela me rappelle une lettre que nous avons reçu, non pas la semaine dernière, mais celle d'avant. Nous l'avons reçu de RTL Luxembourg. Vous savez que nous y avons tenu des méditations ou des émissions chaque dimanche matin pendant 10 ans. Et soudainement, comme tombé du ciel, une lettre arrive chez nous. Ils se souviennent très bien de nous. Et nous propose d'avoir des émissions en allemand, en anglais et en français. Je vous demande aussi que nous portions cela tous comme sujet de prière devant le Seigneur. Nous désirons réellement atteindre notre génération pour le Seigneur. Bien sûr, lorsqu'on lit les prix, cela peut donner le vertige. On remarque combien le temps coûte cher. Mais, ou bien comment les choses sont devenues chères. Mais le Seigneur avait déjà prédit que des temps difficiles ou bien chers viendraient. Nous ne devons donc pas nous en plaindre. Mais nous devons placer cela devant le Seigneur. Vous savez que nous allons bientôt construire afin d'avoir des bureaux et tout ce qui est nécessaire pour accomplir cette tâche, afin que les locaux nécessaires soient disponibles. Et en lien avec cela, j'ai particulièrement la demande à vous transmettre. J'ai particulièrement la demande suivante à vous transmettre. Que nous puissions ensemble présenter devant le Seigneur la prière. Qu'une équipe soit constituée avec des différentes langues, spécialement l'allemand, l'anglais et le français. Pour le moment, tout repose, pour ainsi dire, sur moi. Je dois assurer la prédication, toute la correspondance, les traductions. je dois rédiger, je dois dicter en allemand et en anglais. Puis encore, tout est vérifié. C'est tout simplement trop. Cela ne fonctionne plus. Prions afin que Dieu puisse trouver des personnes et puisse les accorder les unes avec les autres de telle manière que tout puisse être synchronisé et que tous les besoins puissent être couverts et pris en charge afin que nous puissions atteindre ce continent. L'offre va encore plus loin. Nous pourrions encore, si nous voulons, avoir des émissions en russe, en tchèque. L'offre contient toute une grosse panoplie. Et je me demande réellement devant Dieu si le temps n'est pas venu de faire réellement le dernier effort avec toute puissance, avec toutes les possibilités, avec tous les moyens disponibles. Et cela, conformément à la parole de l'Écriture, que cette bonne évangile du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, 14. Il ne suffit pas seulement de dire « Le retour du Seigneur est proche » et les signes des temps le montrent. Tout cela est vrai. Mais ensuite, nous devons mettre la main à l'œuvre. Bien sûr, moi aussi je pense parfois qu'il serait plus agréable de pouvoir se reposer un peu. J'ai quelques amis. Je pourrais être quelque part dans les montagnes sans avoir besoin de payer, même dans une belle, dans la belle Suisse. Même là, j'ai même très souvent cette offre. Mais la question est de savoir si je le peux, si le temps me le permet. Certains disent que Frère Branham aussi prenait du temps. Il allait chasser, il allait pêcher. C'était ses deux occupations favorites en dehors de la prédication. Et là, naturellement, il était entièrement seul avec Dieu. Mais pour moi, un exil dans la solitude serait une punition. Je dois simplement être au cœur de la chose. Et plus il est possible de faire pour le Seigneur, plus le temps peut être utilisé efficacement. Alors mieux je me sens. Puissent ces courtes paroles que nous avons lues, ainsi que les remarques qui viennent d'être faites, que tout cela puisse devenir pour nous tous un sujet de prière, afin que le Seigneur dirige réellement tout, harmonise tout et conduise toutes choses de manière à ce que sa volonté soit faite en tout. Que nous ne prions pas seulement en disant que ta volonté soit faite, mais que nous puissions dire, comme notre Seigneur dans l'évangile de Jean, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, verset 34. Que cela soit notre désir à tous, faire la volonté du Seigneur. Et comme Jonas cria au Seigneur, ainsi que tous ceux qui ont ressenti qu'ils sont séparés de Dieu et que leur chemin va vers le bas, à moins que le Seigneur n'ait compassion d'eux, qu'ils puissent, que ces personnes puissent l'invoquer. Et il est écrit, celui qui me cherche, je me trouverai, je me laisserai trouver par lui. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Je suis certain que Dieu exaucera nos prières. Et comme nous l'avons entendu plusieurs fois hier soir, faisons-le avec honnêteté, avec sincérité. Car il y a cette parole qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Dieu veut que nous le cherchions, que nous le trouvions, afin qu'il puisse avoir compassion de nous et nous bénir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Je voudrais relire encore une fois cette parole merveilleuse qui est devenue aussi très grande pour Martin Luther. Oui, la la parole de la justification par la foi dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi très bien compris la justification. Ce n'est pas simplement une sorte de pardon où l'affaire serait classée faute de preuves. La justification signifie que l'accusé n'est absolument pas coupable. La faute est réglée. Elle a été ôtée. Il est accusé injustement. Nous avons aussi entendu Ésaïe 53 hier. Il a porté les péchés de nous tous, Ésaïe 53, verset 6. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Être justifié devant Dieu signifie que le cas provoqué par le péché sur l'humanité a été annulé et que l'homme est replacé devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché, comme s'il n'avait jamais été séparé de Dieu, réconcilié avec Dieu, uni à Dieu, rendu participant de la nature de Dieu, fils et fille de Dieu par le saint sang précieux de l'agneau répandu à la croix de Golgotha. Pour cette rédemption qui nous a été donnée par grâce, nous voulons remercier Dieu. Et alors nous n'avons pas besoin de faire de pèlerinage ni à Kevlar, ni à Altötingen, ni à Assenberg ou je ne sais pas où ailleurs. Personne n'a besoin de faire un pèlerinage pour aller se jeter quelque part à terre pour chercher la paix. Nous pouvons alors commencer notre pèlerinage avec Dieu, comme Bouyan l'a écrit dans son voyage du pèlerin, et marcher avec lui à travers cette vallée de larmes jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Le Seigneur reviendra. Il prendra les siens auprès de lui. Et comme ce serait merveilleux si aucun de nous ne manquait ce jour-là. Si tous acceptaient la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, et s'ils pouvaient remercier le Seigneur pour cela, et ne chercher ni chemin détourné, ni chemin humain, mais recevoir par la foi, oui, le moyen divin, la réconciliation par le sang de l'agneau, alors, il pourrait simplement s'écrier comme Jonas. Le salut vient du Seigneur, pas d'une église, pas d'une institution, pas d'une assemblée, pas d'un évangéliste, de nulle part ailleurs. Mais le salut vient uniquement du Seigneur. Celui qui veut être sauvé doit être sauvé par lui. Et celui qui reçoit le salut le reçoit de lui. Tous les autres chemins conduisent à côté du but. Que Dieu puisse nous accorder la grâce, que nous puissions prendre au sérieux ces courtes indications de sa parole. Et je voudrais déjà dire ici, en ce lieu, nous avons l'habitude, ce n'est peut-être pas le mot juste, mais nous avons souvent vu des personnes venir devant, remettre consciemment ou bien déposer consciemment leur vie à Dieu, prendre les décisions pour Christ. À un moment donné, chacun doit faire le commencement. Si le commencement n'est pas fait, il ne peut pas y avoir de progrès et d'achèvement. Lorsque nous allons prier tout à l'heure, si certaines personnes se sentent poussées à venir devant pour parler avec Dieu, pour le remercier, pour sa parole et pour la grâce, alors sentez-vous libre de le faire. Ici, personne ne sera critiqué. Ici, tous veulent adorer et tous veulent chercher ensemble le Seigneur. Que cela soit pour nous tous, comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 12, verset 30. Aimez le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Que notre vie puisse devenir quelque chose pour la gloire, pour célébrer la gloire de sa grâce. Que l'amour qu'il a manifesté à notre égard puisse, même dans une faible mesure, lui être rendu de notre part. Et que nous puissions aussi l'aimer, lui, ainsi que les siens, l'aimer, lui, ainsi, et nous aimer les uns les autres dans cet amour divin. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, de tout cœur, je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci de ce que, par ta parole, tu nous as parlé, de ce que tu continues à agir par ton Saint-Esprit. Seigneur, je sais que beaucoup ont reçu la lumière. Tu as accompli de grandes choses pendant la prédication. Bien-aimé Seigneur, prends-nous à toi. Fais-nous grâce à cause de ton saint nom. Sois remercié parce que il est devenu vrai que nous avons trouvé grâce devant toi. Que tu as accordé le pardon, le renouvellement, oui, la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé Sauveur, nous te demandons ensemble, prends nos vies à tous. Prends-les comme reconnaissance pour le fait que tu es entré dans la mort pour nous, afin que désormais nous puissions vivre pour toi comme Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Selon Galates 2, verset 20. Bien-aimé Seigneur, qu'aucun ne manque et qu'aucun ne soit perdu parmi ceux qui ont entendu ta voix et reçu ta parole. Tu es ici pour confirmer la parole et pour accorder à chacun une bénédiction particulière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, élève toi-même ta face devant nous et donne-nous ta paix. Et pas seulement ici, en ce lieu, mais partout, en tout lieu, dans toutes les assemblées, que tu puisses établir des gardes sur les murs de Sion à qui tu peux révéler ta parole et ta volonté, afin que soit encore proclamé ce qui fut proclamé au commencement. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons ensemble merci pour tout, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.